Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir, Julien Cellier, Cyprien Cini.
18h41, on défait le monde effectivement maintenant dans RTL Soir avec la bande Cini, Landreau, Dessier, l'info autrement jusqu'à 19h, le menu Cyprien.
Ce soir, on défait le grand déballage hollywoodien. Jack Sparrow, mis à nu à la télé et dans le monde entier, Johnny Depp et son ex Amber Heard balancent tout et se déchirent. Alcool, drogue et violence, on vous plonge dans la justice au spectacle poussé à son paroxysme. Au menu également chez les Républicains, les mêmes causes produisent les mêmes effets et la grande histoire de la tomate cerise qui a frôlé Emmanuel Macron. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Avec le son du jour.
Le générique de Pirates des Caraïbes, sauf que Jack Sparrow, bah il est dans le dur en ce moment, oui. Johnny Depp, l'acteur star, est en plein procès avec son ex-compagne Amber Heard. Au centre des débats, mensonges, alcool et violence. Une sorte de règlement de compte à hockey choral, mais surtout sur la place publique. Car avec ce procès, la justice devient un véritable spectacle à la fois fascinant et désespérant.
En quoi ce procès est-il hors norme? Moyens mis en œuvre, couverture médiatique? Et tout ça pour quoi d'ailleurs?
Pour nous expliquer à quel point tout cela est effarant, on a contacté Florian Anselme. Il est journaliste, auteur, chroniqueur, travaille notamment pour le magazine Closer. Et alors, vous le savez, aux États-Unis, les grands procès peuvent être filmés. Et même si généralement, les affaires people comme celle-là se règlent discrètement, là, bah c'est loin d'être le cas.
Pour la première fois dans le genre, on peut dire, il est filmé par Court TV, qui est en fait une sorte de réseau numérique américain, qui est spécialisé dans l'analyse criminelle, juridique, etc. Et donc c'est retransmis en direct à la télévision, sur Internet et sur plusieurs réseaux sociaux. Donc on peut assister quasiment en direct au grand déballage.
Donc là, à la télé en direct, on voit le procès. On entend tout de leur histoire tumultueuse.
Absolument tout. Les témoignages, les preuves, les plaidoiries, les visages. C'est de la télé-réalité trash, plus vraie que nature. Et pour ceux qui suivent le procès en direct, eh ben c'est même pire que ça.
Beaucoup de journalistes font référence à un film d'horreur. Elle, par exemple, l'accuse de l'avoir à de nombreuses reprises agressé physiquement, sexuellement, de l'avoir menacé. Lui l'accuse de la même chose. Par exemple, dans ce procès, il a été dit qu'elle lui aurait coupé le doigt à l'aide d'un tesson de bouteille. Il y a d'ailleurs des extraits audio qui ont été dévoilés. Ça, c'est aussi l'une des grandes premières de ce procès où on entend Amber Heard se féliciter, grosso modo, d'avoir tapé Johnny Depp. On a aussi eu le droit au grand déballage vidéo, puisque des vidéos ont été récupérées par les avocats de Johnny Depp, où on voit Amber Heard a priori tromper l'acteur dans l'ascenseur d'un hôtel avec Elon Musk, le milliardaire.
Et on a l'impression que tous les coups sont permis dans ce procès.
Ah oui, bien sûr. Détective privé, avocat, psychologue, SMS.
Et donc ce grand déballage, c'est comme une série tous les jours à la télé.
Juste pour essayer de comprendre, pourquoi Johnny Depp et Amber Heard, qui sont des stars, on le rappelle, pourquoi ils acceptent de se prêter à ce grand déballage public? Ils ne peuvent pas régler ça en privé avec chacun son avocat?
Ben non, parce qu'en fait, c'est aussi une question d'image publique. Enfin, plus pour lui que pour elle.
Là, on le voit bien habillé, présentant plutôt bien, avec une voix sobre et stable. Elle, pareil. On les sent l'un comme l'autre déterminés à gagner une bataille qui est plus qu'une bataille d'argent, en fait. Johnny Depp, aujourd'hui, il essaye surtout de laver son nom. Parce que depuis les accusations d'Amber Heard, Johnny Depp a énormément perdu sur le plan de sa carrière. Il a notamment été remercié par la franchise Disney et les fameux Pirates des Caraïbes. Il a également été viré par la Warner, puisqu'il était dans la saga des Animaux Fantastiques. C'était une personnalité incontournable, il était sur le toit du monde. Aujourd'hui, il est à des années-lumière de celui qu'il était avant de rencontrer et d'épouser Amber Heard.
Et le grand déballage, enfin le procès, hein, va durer jusqu'au 20 mai prochain.
Ouais, c'est un feuilleton avec plusieurs épisodes, donc on l'aura compris.
Ouais, c'est incroyable.
RTL, sous les radars.
Et on défait l'info passée sous les radars.
Et ce soir, c'est surtout une petite annonce, figurez-vous, qui est passée inaperçue et qui devrait intéresser les fans de foot. Et alors, surtout vous, Julien.
Vent club de football vintage. Voilà ce que l'on pouvait lire hier dans le journal Le Parisien, au milieu d'annonces de vente de meubles anciens et de vinyles. Une offre pour devenir propriétaire du Red Star FC, club de 3e division, club historique de Seine-Saint-Denis qui fête ses 125 ans cette année, sa Coupe de France au palmarès. Bah, sauf que cette annonce n'a pas été lancée par les propriétaires actuels du club, qui, eux, ont déjà trouvé un acheteur, un fonds d'investissement américain. Et ce n'est pas du goût des supporters réunis au sein du collectif Red Star Bauer qui ont donc posté cette annonce, le président Vincent Chuté-Mézens.
Déjà, c'est un fonds d'investissement qui est basé à 5000 km d'ici. Ils ne sont jamais à plein temps sur les lieux et la gestion des clubs, elle est très compliquée. Nous, on a un peu peur d'être noyé au milieu de, parce qu'ils possèdent déjà 4 clubs. La priorité de ce fonds d'investissement, ça ne va pas être de s'impliquer au Red Star. Et l'objectif, ça va plutôt être devenir un peu piller nos jeunes joueurs pour alimenter les autres clubs. Je pense que là, on signerait un peu la mort du Red Star tel que tout le monde le connaît.
Les supporters veulent donc trouver un acquéreur plus en phase avec leur vision du football. Leur petite annonce a aussi été publiée sur Le Bon Coin et c'est précisé noir sur blanc. Le club à racheter dispose d'une forte communauté de supporters brillants. Vous êtes prévenus.
Et ça, Julien le sait, parce qu'il va souvent voir le Red Star.
Effectivement,
on peut le révéler à nos auditeurs.
Je n'habite pas très loin de ce stade. Supporters bruyants, mais fort sympathiques.
Il faut le dire.
Un peu dissipé parce qu'ils ont envoyé des fumigènes sur la pelouche pour protester contre le rachat lors de la dernière journée de nationale. Du coup, le Red Star va jouer à huis clos. Et ça, c'est une autre histoire. Je crois que c'est 10-11 millions le prix de la transaction. Donc, il faut quand même que l'acquéreur qui regarde sur Le Bon Coin, il ait quelques sous de côté. Hein. Ouais. Allez, petite pause. On continue de défaire le monde dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. Tiens, on va continuer de parler foot. Et on va parler de Karim Benzema, notamment. À tout de suite.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h49, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Première info pour briller tout à l'heure au dîner.
C'est le nouveau héros du foot français, Karim Benzema. Nouveau doublé hier soir en Ligue des Champions.
Quelle ambiance dans ce
studio. Dont un pénalty marqué sur une panenka.
Ah oui, vous savez ce tir où vous faites semblant de tirer très fort alors qu'en fait vous faites une petite frappe délicate à mi-hauteur au milieu du but. Ça,
ouais,
c'est très poétique.
On voit, ouais.
Le football, c'est de la poésie, vous savez. Mmh. Un geste inventé par Antonin Panenka, attaquant du Bohemian Prague dans les années 70. Et avec son grand copain, le gardien du but du club, ils avaient l'habitude de se défier dans des face-à-face à la fin de l'entraînement. L'enjeu, une bière ou une tablette de chocolat s'ils marquaient une série de 5 pénaltys. Alors comme les deux hommes se connaissaient par cœur, Antonin Panenka était obligé de se réinventer à chaque frappe. Il y pensait même la nuit. Et c'est comme ça qu'il a trouvé cette idée de génie.
Et surtout, d'une bière, il l'a utilisé en finale de l'Euro.
Le 20 juin 1976, il l'a utilisé effectivement pour donner la victoire à la Tchécoslovaquie en finale de l'Euro face à l'Allemagne.
Et son nom est donc resté pour parler de ce geste fabuleux que Benzema a réalisé à la perfection hier soir.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde.
Et surtout l'impitoyable Céline Landreau. Pas de winner, non, ah bah aujourd'hui. Non. Elle a encore choisi un loser.
Oui, la grande perdante, c'est la mémoire des Républicains qui, en plus de devoir cuver la pire défaite de leur histoire, semble avoir complètement perdu la mémoire. Et ça, ça ne vous a pas échappé, Céline, puisque vous, vous en avez, justement, de la mémoire.
Oui, parce qu'en entendant ici même hier soir, Nadine Morano faire le bilan de la présidentielle chez les LR, moins de 5%, on le rappelle, pour Valérie Pécresse, qui avait remporté la primaire interne.
Je pense que notre dispositif de désignation de notre candidat n'est pas le bon et que nous ne reviendrons jamais avec un dispositif de primaire.
Nadine Morano qui l'a répété quelques heures plus tard sur BFM.
C'est une lourde défaite électorale. C'est d'abord aussi une lourde défaite par rapport aussi à notre processus de désignation.
Et vraiment, elle en avait gros sur le cœur.
Plus jamais de primaire ouverte, fermée, rien, nada, fini ça. Celle-là, c'est primaire, c'est déprimant, hein. C'est fini, c'est la catastrophe.
Oh oui, là...
C'est vraiment la caca, la cata, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe.
La catastrophe. Et en entendant donc Nadine Morano, on a eu la légère impression d'être tombée dans une faille spatio-temporelle chez les LR. Car rappelez-vous, en 2017, après l'élimination de François Fillon au premier tour, François Fillon, qui avait été désigné par une primaire, voilà ce que disait Brice Hortefeux.
La primaire, première et dernière. Comment persévérer dans un système qui aboutit à ce que les deux candidats qui se sont pliés à l'exercice de la primaire soient éliminés dès le premier tour et que les deux candidats qui s'en sont totalement exonérés, soient aujourd'hui les gagnants du premier tour. Primaire, première et dernière.
Ouais, vraiment, il ne veut plus en entendre parler. Et ce qui est beau sur ce sujet, c'est la constance. 4 ans plus tard, en 2021, Brice Hortefeux est à nouveau interrogé sur une possible primaire à droite.
Moi, je suis totalement contre, parce que il faut regarder d'où l'on vient.
Mais oui, totalement contre, on vous dit. Et contre quoi, déjà?
Je suis totalement contre ceux qui sont opposés à la primaire. Donc, c'est une manière de dire je suis pour la primaire.
Ah bah merci, c'est plus clair comme ça. Et c'est vrai qu'elle avait de quoi séduire, cette primaire LR, primaire fermée, hein, cette fois réservée aux seuls adhérents. N'importe qui ne pouvait pas voter, comme l'avait expliqué le sénateur Philippe Bas.
Si quelqu'un a inscrit son chien, le chien n'a pas pu voter parce que le chien ne sait pas lire le numéro de code qui est envoyé par SMS sur son téléphone portable.
Et oui, et surtout l'argument massu des défenseurs de la primaire, c'était celui-ci, martelé notamment par le candidat d'alors Philippe Juvin.
Pourquoi la primaire? Parce qu'il faut que les gens comprennent. S'il n'y a pas de primaire, nous risquons d'avoir deux ou trois candidats au premier tour et donc, par définition, mécaniquement, être éliminés du second tour. C'est pour ça que la primaire est indispensable.
Voilà, la primaire chez les LR, indispensable pour atteindre le second tour avec le succès que l'on connaît deux fois déjà.
Donc vivement 2027, on l'a compris. Merci Céline. Petite pause. Dans un instant, nouvelle info pour briller au dîner avec des tomates cerises comme celle esquivée par Emmanuel Macron aujourd'hui.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h54, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Vous vous préparez peut-être à dîner. Eh bien, voici une nouvelle occasion pour y briller au dîner.
Emmanuel Macron visé lors de sa visite à Cergy par une tomate. Mais alors, pas n'importe quelle tomate, Céline. La tomate cerise, une arme très récente,
oui,
en fait.
Oui, elle a tout juste un quart de siècle, cette tomate cerise. Et on la doit aux Britanniques.
Grand pays de la tomate.
Exactement. Au groupe Marc & Spencer, plus précisément, qui, dans les années 90, missionne deux ingénieurs d'une faculté agricole israélienne, car Marc & Spencer veut vendre des petites, toutes petites tomates. Alors, ça existe, oui, à l'état sauvage, mais elles sont fades et fragiles. Alors les chercheurs, messieurs Kedar et Rabinovitch, planchent et finissent par développer un fruit résistant et surtout très riche en sucre, parfait pour le grignotage. En 96, les tomates cerises débarquent en rayon et s'imposent rapidement à l'apéro.
C'est fou ça. Ce sont les Anglais qui ont inventé la tomate cerise. Ouais.
Enfin, qui ont missionné des chercheurs en Israël.
Ouais, effectivement.
La précision.
Oui, toujours. Les faits, rien que les faits. Très bonne info pour briller ce soir au dîner, surtout c'est pas de saison les tomates cerises, on peut pas en manger.
Pas encore.
Mais bon, un petit peu de mozzarella, c'est très bon.
C'est pas de saison.
Lui, pense qu'à manger.
Lui, il bouffe tout le temps, lui. Très bonne info pour briller. Je vous donne un point et je donne un point à Laurent aussi pour la panenka parce que c'est une très belle info. C'est Noël, je suis de bonne humeur.
Marche.
Avec ce soir au bout du fil, une très chouette idée.
Ah oui, quand on arrive paniqué aux urgences avec un enfant, c'est toujours extrêmement stressant. Et alors, quand on arrive aux urgences avec un enfant et qu'on parle pas la langue pour expliquer ce qu'il a, là c'est encore pire, Laurent.
Oui, c'est pour ça que deux internes des Hospices Civils de Lyon ont créé une application pour aider ces familles aux urgences pédiatriques. Bonsoir Quentin.
Bonsoir.
Alors comment fonctionne votre application?
Oui, alors notre application, en fait, c'est une application sur tablette qui va permettre aux patients, comme vous l'avez dit, qui parlent pas français, de réaliser eux-mêmes l'interrogatoire dans leur langue. C'est-à-dire qu'on va leur poser des questions, les symptômes, les antécédents, les allergies, toutes des informations qui sont essentielles aux médecins. On va les poser dans la langue du patient pour essayer de contourner cette barrière de la langue, même en cas de difficulté de lecture. Et du coup, derrière, le médecin récupérera un compte-rendu détaillé de ce que le patient a fait devant cette tablette en salle d'attente des urgences.
Concrètement, ça veut dire que vous rentrez en français les questions et pour eux, ça apparaît dans leur langue, c'est ça ?
C'est ça, nous on a une arborescence, pour l'instant c'est pour la pédiatrie, donc on a une arborescence de 250 questions. En fonction de ce à quoi le patient répond, il va avoir plus ou moins de questions qui vont être du coup toutes dans sa langue, puisqu'on a tout traduit par des interprètes professionnels. Pour l'instant on l'a dans 12 langues. Pour essayer de les aider, parce qu'on s'était rendu compte que finalement il y avait parfois des difficultés de lecture aussi, on a essayé de, juste en dessous de la question, dans leur langue, il y a aussi un pictogramme pour symboliser la question.
Ça veut dire que les parents peuvent expliquer, il a eu des vomissements, il a eu une douleur exactement à tel endroit, très précisément.
C'est ça, exactement. Et puis l'avantage aussi des outils numériques, c'est que ça, comme vous le dites, par exemple pour la localisation de la douleur, ça permet d'être assez précis et finalement parfois plus précis que quand on fait l'interrogatoire aux urgences où malheureusement les médecins n'ont pas forcément de temps. Ça peut arriver à 2-3 heures du mat où tout le monde est complètement fatigué. Donc l'avantage d'un outil numérique, c'est que finalement lui, il est exhaustif, il pose toujours les mêmes questions et puis on peut intégrer des choses un petit peu plus ergonomiques, enfin un peu plus visuelles, comme le corps de l'enfant par exemple pour la douleur, comme vous venez de le citer.
Et comment vous est venue l'idée? Il y avait vraiment un besoin? Ça se ressentait?
On s'est lancé là-dedans parce qu'on a eu cette problématique de terrain où, au cours de nos études, on fait de nombreuses gardes, et notamment dans les services d'urgence, et on s'est rendu compte finalement qu'il y avait cette problématique qui était récurrente, parce que c'est vraiment quotidien. Il n'y a pas une garde où on n'est pas face à un patient qu'on appelle allophone, donc avec des difficultés de compréhension. Donc nous, on intègre aussi d'ailleurs les patients qui ont des pathologies du langage, sourds, muets, ou l'aphasie, la dysarthrie, donc ils peuvent être tout à fait, enfin, qui sont francophones, mais qui ont des difficultés.
Et donc là, le but, évidemment, c'est de le développer dans tous les services d'urgence de France.
Voilà, on a amélioré cette première version pour la pédiatrie avant de pouvoir la commercialiser. Et puis après, l'idée, ouais, effectivement, c'est de faire la version adulte où il y aura évidemment beaucoup plus de questions, ça sera beaucoup plus complexe. Mais pour derrière, le commercialiser aussi aux urgences adultes. Et voilà.
Une application pour que tous les patients se fassent comprendre aux urgences pédiatriques. Merci Quentin, bonne soirée.
Merci, vous aussi.
Merci Quentin et bravo. Et merci et bravo. Et à demain, les amis.
Dans à demain, bien sûr.
On se retrouve à 18h40 demain. Dans RTL
Avec
soir.
Plaisir.
Bonne soirée. Juste avant le journal de 19h.